Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce lundi 11 avril, lendemain de premier tour avec le journal de Sébastien Nogeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir avec un candidat président en terrain hostile.
Emmanuel Macron a choisi la difficulté en allant directement sur les terres de son adversaire. Le président candidat aujourd'hui en déplacement dans le Nord-Pas-de-Calais qui a voté massivement pour Marine Le Pen. Nous serons sur place dans un instant. Marine Le Pen, elle s'est déplacée dans l'Yonne car le vote rural lui a été très favorable au premier tour, illustration dans la Creuse qu'il a placé en tête. À suivre aussi la droite qui donne sa consigne de vote pour le second tour, aucune voix pour Marine Le Pen. À gauche, pas de stratégie d'alliance pour le moment. Et puis les autres titres, la peur d'une nouvelle offensive russe en Ukraine et le sévère réquisitoire au procès Zepeda, perpétuité requise pour le suspect principal dans la disparition de Naomi.
Et à 18h15, un jour dans le monde, aujourd'hui nous allons en Chine, à Shanghai, tout particulièrement dans son confinement total et hallucinant. Vous écouterez le témoignage de notre correspondant là-bas et sa vie entre quatre murs, littéralement. Un confinement qui dit l'échec d'une politique sanitaire et le jusqu'au-boutisme aussi des autorités chinoises, au point qu'on entend craquer une partie de la population. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne avec bien sûr vos questions après ce premier tour. Allez-y, les paris ratés, les rendez-vous ratés, ce qui va se passer dans les 15 jours à venir, comment s'organisent les reports de voix, les survies politiques et les stratégies. On n'a pas fini d'en parler, ça commence ce soir au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il a donc fait le choix d'aller à portée de baffe.
Oui, pour son premier déplacement de campagne entre les deux tours, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur les terres populaires du Nord et du Pas-de-Calais. Il est à Denain, l'une des villes les plus pauvres de France, puis ensuite à Carvin et Lens, qui ont largement voté pour le Rassemblement National hier, près de 40% des suffrages pour Marine Le Pen. Pas question, comme il y a 5 ans, d'apparaître trop confiant, à l'inverse de 2017, où il avait attendu 2 jours après le premier tour avant de faire campagne. Là, le président candidat entend retourner sur le terrain au plus vite. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Double objectif Simon, rentrer dans la bataille contre Le Pen tout en parlant aux électeurs de Mélenchon.
En un mot, rassurer cet électorat populaire pour qui le pouvoir d'achat est le problème numéro un et la retraite à 65 ans un repoussoir.
Vous ne savez pas ce que c'est un ouvrier. À 60 ans, les gens décèdent de fatigue, etc., ceux qui ont travaillé à l'extérieur.
Mais vous voulez que je vous dise quoi ?
Un peintre, un maçon, il lui faudra un déambulateur pour travailler. On en est malade de votre réforme.
Le sujet revient sans cesse dans la discussion. Emmanuel Macron prend le temps, près de 3 heures, pour convaincre du caractère social de son projet. Retraite minimum à 1100 euros, réindexation des pensions, et pour étrier surtout celui de sa rivale.
Le niveau des retraites, moi je regardais aussi le programme de Mme Le Pen, elle ne permet pas de l'augmenter. Et d'ailleurs, comme elle n'explique rien, qu'elle dit au fond aux gens, dormez braves gens, moi je ne toucherai pas l'âge légal, voire elle proposait il y a 5 ans, 60 ans. Elle n'explique pas aux gens comment elle le finance.
Mais il en faudra plus pour attirer les électeurs du troisième homme.
Moi j'ai voté Mélenchon au premier tour, oui. Ce sont mes convictions. Je vais voter pour vous au deuxième tour parce que je suis contre la haine. J'aurais aimé clairement que vous fassiez quand même des mesures pour le social.
Alors le président sortant, il en a pris l'habitude, emprunte ses références chez l'adversaire d'hier.
Je pars du réel pour aller à l'idéal, comme disait Jean Jaurès.
Et il promet d'amender son programme.
Je dois rassembler. Et pour rassembler, je dois entendre et donc compléter le projet qui est le mien. Et avoir une méthode qui ne peut pas être celle d'il y a 5 ans.
Emmanuel Macron reste flou. Quelles mesures est-il prêt à reprendre ? Il cite l'écologie, le travail et assure avoir déjà échangé par texto avec Jean-Luc Mélenchon.
Simon, le baron à Denain dans le Nord avec Geoffrey Marianne. Emmanuel Macron qui entend multiplier les déplacements dès cette semaine. Il sera demain à Mulhouse et à Strasbourg, deux villes qui ont mis largement en tête Jean-Luc Mélenchon. Un meeting est également envisagé à Marseille samedi. Précisons que les résultats définitifs du premier tour donnent au président candidat 27,85% des suffrages. En face, sa rivale Marine Le Pen et ses 23,15% des suffrages ne comptent pas se laisser distancer. Visite surprise aujourd'hui dans l'Yonne, en terrain conquis auprès d'un agriculteur céréalier. L'Yonne qui a placé Marine Le Pen largement en tête avec plus de 31% des voix. De façon générale, la candidate du RN gagne de nouveaux électeurs, près de 500 000 de plus par rapport au premier tour de 2017. Elle arrive en tête dans 20 000 communes, pas des grandes villes mais des petites communes rurales comme en Creuse où Marine Le Pen arrive en tête dans tout le département. Illustration dans la ville de Gouzon, 1500 habitants. Le reportage de Valérie Menu.
Les Gouzonnais, 1277 électeurs, se sont mobilisés sur ce premier tour. 77% de participation. Et ils ont donc plébiscité Marine Le Pen à 30,7%, 10 points et demi de mieux qu'Emmanuel Macron. Valérie Pécresse ressort quatrième des urnes avec 13% sur cette commune. Pourtant, LR à n'y rien comprendre pour Marie.
Je suis un peu surprise quand même. Ça m'angoisse, je trouve ça bizarre. Mais bon, moi je suis là depuis 5 ans. Avant j'étais en région parisienne. Je compare que bon, ici la campagne c'est calme et que ce soit Marine Le Pen.
Mais pourquoi pas ? Faut bien changer un peu. J'ai regardé ma retraite, moi, ils m'ont piqué 100 euros là, sur ma retraite. Alors, vous êtes content, vous ?
Et à l'image de cette retraitée, c'est bien le besoin de changement qu'ont voulu exprimer les Gouzonnais. François et Philippe ne s'en cachent pas, c'est la candidate RN qui le porte.
Je suis content. On a envie de savoir autre chose. Parce que vu tout ce qu'on a vécu, je pense que ce serait temps, le changement, de faire quelque chose, quoi.
De toute façon, il faut changer. Depuis 5 ans qu'il nous promet des choses et qu'il fait rien, donc au bout d'un moment, on en a marre, quoi. On va changer pour voir ce que ça donne. On verra bien.
Marine Le Pen est arrivée en tête dans 54% des communes creusoises, soit 138 sur les 256 que compte le département.
Valérie Menu de France Bleu Creuse. Alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen améliorent tous les deux leur score d'il y a 5 ans, d'autres partis luttent pour leur survie, notamment financière et au premier rang, les Républicains, pire score de l'histoire de la droite avec 4,78% pour Valérie Pécresse, l'ex-candidate des LR qui appelle les Français à une aide d'urgence. Il va falloir trouver 7 millions d'euros car sous les 5%, l'État ne rembourse pas les frais de campagne. Valérie Pécresse qui est elle-même endettée à hauteur de 5 millions. Survie financière mais aussi politique. Comment se positionner au second tour dans un parti très déchiré? Plusieurs ténors dont Valérie Pécresse ont fait le choix de voter Macron au second tour, mais pour le parti dans son ensemble, pas de consigne claire. Après un bureau stratégique houleux, les LR ont donc choisi de ne porter aucune voix sur Marine Le Pen, adsouhaitement.
Éviter l'implosion. Au lendemain de la déroute de Valérie Pécresse, tous craignaient la division de la droite. Mais après une matinée de réunion, le patron du parti, Christian Jacob, annonce l'adoption d'une motion. Au second tour, pour les LR, ce n'est pas une voix pour Marine Le Pen.
Notre famille politique a toujours été et reste un adversaire déterminé du Rassemblement national. Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen.
20 ans après le 21 avril 2002, plus question pour la droite d'appeler à faire barrage. Certains, dont Christian Jacob, mettront bien un bulletin Macron dans l'urne contre l'extrême droite, mais d'autres voteront blanc, dont le député Julien Aubert, satisfait par le vote du bureau politique.
Il y a quelques abstentions, mais quelques abstentions dans une forêt de votes pour. C'est évidemment une position très forte.
Si la décision a été validée à une très large majorité, une dizaine d'élus LR ont choisi de s'abstenir. Parmi eux, Gilles Averrousse, maire de Châteauroux.
J'aurais préféré qu'on appelle à voter clairement pour le président Macron. La situation est difficile. Il y a vraiment un risque, je pense, d'élection de Marine Le Pen et on ne peut pas être dans l'entre-deux.
Gilles Averrousse sera-t-il suivi par d'autres LR tentés par les sirènes macronistes? Pour l'instant, les décisions de ce matin ont suffi à ce qu'on n'explose pas, veut croire un cadre.
Anne Souhaitemont, pour qui voter au second tour? La question agite aussi les électeurs de gauche qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, 21,95% pour le leader des Insoumis selon les résultats définitifs, 420 000 voix de moins que Marine Le Pen. Mélenchon qui part trois fois hier soir a répété qu'il fallait qu'aucune voix n'aille au Rassemblement national. Mais au-delà du second tour, la question c'est maintenant la recomposition à gauche, où la France insoumise règne en maître, loin devant les 4,63% de l'écologiste Yannick Jadot, les 2,28% du communiste Fabien Roussel et les 1,75% de la socialiste Anne Hidalgo. Pour autant, une alliance est-elle envisageable à ce stade? Antoine Gignot, on en est loin.
L'urgence, c'est la reconstruction et elle ne peut être que collective. Martel chez les socialistes, le sénateur David Assouline.
Ceux qui ont gouverné ensemble dans le passé, mais qui aujourd'hui agissent ensemble et gouvernent ensemble les territoires, ceux qui ne s'insultent pas, ceux qui ont des programmes compatibles, doivent se mettre d'accord et présenter des candidats ensemble dans toute la France.
Autrement dit, il s'agit de réunir le PS, les Verts, les communistes, les radicaux de gauche et pas forcément les autres, glisse Patrick Kanner, le patron des sénateurs PS.
C'est une gauche européenne, laïque, qui a des principes qui parfois nous rendent différents par rapport à M. Mélenchon.
Il n'y aura donc probablement pas d'alliance avec la France insoumise. Le député LFI Alexis Corbière le dit aussi, la campagne présidentielle a laissé des traces.
Nous avons écrit à Europe Écologie des Verts il y a encore 15 jours, ils ne nous ont pas répondu. Concernant le PS, ils nous ont beaucoup attaquer. Ça paraîtrait peut-être opportuniste de leur part qu'ils veuillent quémander le fait qu'ils ont besoin de notre soutien pour être élus. C'est un peu compliqué.
Mais au-delà des partis, il y a aussi des choix individuels, précise un cadre du PS. Chez les socialistes comme chez les Verts, les législatives pourraient provoquer des départs.
Antoine Gignot, l'élection présidentielle, résultat complet du premier tour avec les 5 cartes pour comprendre le nouveau paysage politique français. C'est à retrouver sur franceinter.fr et bien sûr, on y revient, Fabienne, dans le téléphone sonne.
Absolument. L'autre actualité, c'est Sébastien, ce soir, c'est l'Ukraine qui se prépare à la chute de Mariupol.
La ville assiégée et bombardée depuis des semaines pourrait tomber aux mains des Russes dans les jours qui viennent. L'armée sur place se dit sans munitions, sans nourriture, sans eau. Impossible dans ces conditions de se défendre. Le ministre de la Défense ukrainien, lui, craint que l'armée russe ne lance sa grande offensive sur l'est du pays très prochainement. L'ennemi, dit-il, a presque terminé sa préparation. Dans le nord du pays, l'armée ukrainienne reprend peu à peu le terrain autour de Kiev, comme à Tcherniv, où se sont rendus nos envoyés spéciaux. Tcherniv, une ville de 300 000 habitants avant la guerre, plus que 100 000 aujourd'hui, 800 morts au total. Une ville libérée mais terrorisée à l'idée que les chars russes ne reviennent. C'est le reportage de Thibault Lefebvre et Benjamin Thiou.
Le 3 mars, cette bombe tombe sur le quartier de Staraya Podousivka, c'est à l'ouest de Tcherniv. 4 maisons sont pulvérisées.
C'était la marraine et le parrain de mon fils et leur fille. 5 personnes sont mortes ici.
Et depuis, Svieta scrute le ciel et guette le bruit sourd des avions.
On a peur. Tous les jours, on y pense. Une nuit, un avion est passé à très basse altitude et pendant une semaine, on n'a pas quitté la cave. Comment est-ce qu'on peut anticiper ? Ici, il y avait mes proches. Je ne veux pas m'en aller pour ne pas les trahir. On ne peut pas partir.
Ce sont les éclats des bombes qui sont tombés. Ils ont tué les nôtres.
3 petits morceaux de métal dans le creux de sa main et quand Valérie dit « il parle évidemment des soldats russes mais aussi des voisins biélorusses. La ville de Gomel est à seulement 2 heures de route et jamais il n'aurait pu imaginer qu'un jour les deux pays se fassent la guerre.
Nos relations ont changé. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Ces gens ont détruit nos maisons. Je suis obligé de vivre dehors. Alors imaginez ce que je pense.
De la sidération d'abord, puis une tristesse infinie et c'est désormais la rage qui domine.
Voilà ce que je ressens. Et je vais vous le dire en russe, j'ai la haine.
Et si les combats recommencent, Valérie se dit prêt à reprendre les armes.
Voilà le reportage de Thibault Lefebvre et Benjamin Thiou à Tcherniv. Il sera resté dans le déni jusqu'au bout. Nicolas Zepeda connaîtra bientôt son sort. Verdict des assises du Doubs attendu demain. Nicolas Zepeda jugé pour l'assassinat en 2016 de son ex-petite amie japonaise, Narumi Kurosaki, dont le corps n'a jamais été retrouvé. C'était aujourd'hui les plaidoiries des parties civiles et le réquisitoire de l'avocat général qui a réclamé la réclusion à perpétuité. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Sébastien.
Un réquisitoire implacable.
Je ne vous trouve, monsieur Zepeda, pas la moindre circonstance atténuante, lance l'avocat général. Tout, absolument tous les éléments du dossier ramènent exclusivement à vous. Méticuleusement, pendant 2 heures, Étienne Manteau va refaire la longue énumération des charges réunies par les enquêteurs. Puis, il va s'en prendre à cet homme qui, dit-il, a tenté de contrôler la vie de Narumi jusqu'à vouloir en contrôler sa mort, le jour où il a compris qu'elle voulait s'émanciper. Puis il accable l'accusé, enfermé aujourd'hui dans le plus grand déni, mais c'est notre quotidien magistrate condamné des menteurs en tout genre, précise l'avocat général, au cas où la cour d'assises ait la tentation d'aller explorer les zones de doute qui persistent sur les circonstances de l'assassinat. Et c'est justement sur ces doutes que rebondit la défense de Nicolas Zepeda en ce moment, humblement, sur une ligne de crête vertigineuse, reconnaît maître Jacqueline Lafont, en demandant au juré d'apprécier la sincérité de son client quand il a hurlé son innocence à l'audience, soit parce qu'il ne l'a pas tué, soit parce qu'il lui est impossible de concevoir qu'il les faits, une porte étroite dans laquelle l'avocate glisse un pied pour tenter d'éviter à Nicolas Zepeda la peine maximale requise.
Jean-Philippe Degnaud en direct de Besançon, verdict attendu donc demain. Ajoutons au chapitre police-justice l'arrivée à la prison de Borgo en Corse, des 2 derniers membres du commando Erignac, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Puis cette dernière info, service, le service de déclaration en ligne des revenus suspendu vendredi en raison d'erreurs de pré-remplissage de certaines déclarations. Ce service a été rétabli ce matin.
Et merci beaucoup Sébastien Nogeny. On vous retrouve bien sûr dans Un jour dans le monde, dans Sous les radars. Vous allez notamment nous parler de cette manifestation pro-russe.
Tout à fait.
En Allemagne, ce soir, nous allons à Shanghai, dans son confinement total qui craque aux entournures et fait réfléchir peut-être un peu Pékin. On le verra, vous entendrez surtout le témoignage de Simon Le Plâtre qui est vraiment édifiant. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Vous imaginez que c'est la politique qui nous intéresse avec vous ce soir. On va revenir ensemble et à froid sur ce scrutin. Qu'est-ce qu'il nous dit des reports pour le deuxième tour? Qu'est-ce qu'il nous dit aussi de la recomposition géante de la vie politique à droite, à gauche et les Verts aussi peut-être? Il y a de l'explication dans l'air en tout cas. Le numéro, vous le connaissez, c'est le 01 45 24 7000.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
L'œil sur le ciel avec vous, Élodie Callac. Bonsoir Élodie, beaucoup de vent ce soir et cette nuit sur l'Occitanie.
Oui, bonsoir à tous. En effet, Haute-Garonne et Tarn sont en vigilance orange. Le vent d'autan va se renforcer pour atteindre 90 km à l'heure en région toulousaine, 110 à 120 sur la montagne Noire et sur le Lauragais. Il atteindra encore 80 à 110 km à l'heure demain matin. Ça soufflera également sur un grand quart sud-est. Et puis sur le nord-ouest, ça se gâte ce soir. On a des averses parfois orageuses qui pourraient bien éclater.
Pardon, demain de la pluie sur l'ouest.
Exactement, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux côtes de la Manche, des pluies irrégulières. Ailleurs, le ciel sera de plus en plus voilé. Il y aura quand même de belles éclaircies sur le nord-est le matin, mais ça ne durera pas. Et puis sur le Languedoc-Roussillon, beaucoup de nuages, quelques averses, de la douceur quasiment partout. Alors souvent 7 à 13 le matin, un peu moins sur le nord-est, 3 à 8. L'après-midi, vous aurez 16 à 21 degrés et jusqu'à 24 dans l'est.
Élodie Callac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.